Chapitre 5. Manœuvre. C'est vrai, il existe un ancien code de conduite, et c'est également vrai, ses coutumes étaient plus rigoureuses que celles d'aujourd'hui. Mais je tendrais à penser que, loin de les tenir désormais pour désuètes, nous les avons simplement dissimulées sous une couche de vernis. De nos jours encore, un guerrier est lié par sa parole, et parmi ceux qui combattent au coude à coude, il n'est pas individu plus vil que celui qui ment à ses camarades ou les expose au déshonneur. Les lois de l'hospitalité interdisent toujours à celui qui a partagé le sel à la table de quelqu'un de verser le sang chez son hôte. Le château de Castelcerf s'enfonçait dans l'hiver. Les tempêtes arrivaient de l'océan, nous martelaient avec une rage glacée, puis s'en allaient. La neige tombait en général à leur suite en grands amoncellements qui gelaient sur les remparts, comme le glaçage sur les gâteaux aux noix. Les heures ténébreuses s'allongeaient, et par nuit claire, les étoiles brillaient d'un éclat froid dans le ciel. Après mon long voyage pour revenir du royaume des montagnes, la férocité de l'hiver ne m'inquiétait plus autant qu'autrefois. Tandis que je faisais ma tournée quotidienne des écuries et de la vieille ferme aux cochons, le vent hivernal pouvait bien me brûler les joues et me coller les cils. Je savais qu'un bon feu m'attendait chez moi, tout près de là. Et puis les tempêtes et le froid noir qui grondaient comme des loups à la porte étaient les molosses qui empêchaient les pirates rouges d'approcher de nos côtes. Pour moi, le temps se traînait. Je rendais visite chaque jour à Kétriken, comme Imbre me l'avait suggéré. Mais nous ne tenions en place ni l'un ni l'autre, et je suis sûr que je l'irritais autant qu'elle m'exaspérait. Je n'osais pas rester trop longtemps en compagnie du petit loup, de peur que nous nous lions. Et je n'avais pas d'autre devoir fixe. Les journées comptaient trop d'heures, et Molly les emplissait toutes. Le pire, c'était la nuit, car alors mon esprit m'échappait complètement, et mes rêves ne renfermaient que ma Molly, ma chandelière à la jupe rouge vif, aujourd'hui si triste et grave en bleu de servante. Si je ne pouvais la côtoyer de jour, je la courtisais en rêve, avec une ardeur et une énergie que je n'avais jamais réussi à rassembler à l'état de veille. Lorsque nous nous promenions sur les plages après une tempête, sa main était dans la mienne. Je l'embrassais avec compétence, avec assurance, et je soutenais son regard sans avoir le moindre secret à lui dissimuler. Nul ne s'interposait entre nous, dans mes rêves. Tout d'abord, la formation qu'Imbre m'avait donnée m'incita à l'espionner. Je savais quelle chambre elle occupait à l'étage des serviteurs. Je savais quelle était sa fenêtre. J'appris sans le faire exprès les horaires de ses journées. Je me postais aux endroits où j'avais des chances d'entendre son pas dans les escaliers et de l'apercevoir alors qu'elle partait au marché. J'en avais honte, mais je ne pouvais m'en empêcher. Je découvris qui, parmi les servantes, étaient ses amis. S'il m'était interdit de lui parler, du moins pouvais-je les saluer, elle, et bavarder parfois avec elle, dans l'espoir d'entendre prononcer le nom de Molly. Je me consumais du désir de la voir. Le sommeil me fuyait, et manger me laissait de marbre. Plus rien n'avait d'intérêt. J'étais installé un soir dans la salle de garde mitoyenne des cuisines. Je m'étais trouvé une place dans un coin, où je pouvais m'adosser au mur et allonger mes jambes sur le banc d'en face afin de décourager toute velléité de me tenir compagnie. Une chope de bière, tiède depuis des heures, était posée devant moi. Je n'avais même plus l'énergie de m'enivrer à mort. Les yeux dans le vague, je m'efforçais de ne penser à rien, lorsque le banc disparut soudain de sous mes pieds. Presque précipité à bas de celui où j'étais assis, je me rattrapais tant bien que mal et vis Burick prendre place en face de moi. « Qu'est-ce qui te tourmente ?» me demanda-t-il sans embâge. Il se pencha vers moi et baissa le ton. « Tu as encore une crise ?» Je ramenai mon regard vers la table et répondis à mi-voix. Quelques accès de tremblement, mais pas de vraie crise. Apparemment, elles ne surviennent que si je me fatigue trop. Il hocha la tête d'un air grave, puis attendit que je poursuive. Je relevai le visage. Ses yeux sombres étaient fixés sur moi, et j'y lus une inquiétude qui me toucha. Je secouai la tête et dit d'une voix rauque. « C'est Molly.
Tu n'as pas réussi à découvrir où elle est partie ?»«
Si. Elle est ici, à Castelcerf. Elle travaille chez Patience comme chambrière. Mais Patience m'interdit de la voir. Elle prétend que... À mes premiers mots, Burick avait écarquillé les yeux. Il se mit à jeter des regards furtifs autour de nous. Puis il désigna la porte de la tête. Je me levai, le suivis dans les écuries et montai derrière lui jusqu'à sa chambre. Je m'assis à sa table, devant l'âtre, et il sortit son excellente eau-de-vie de la bourre, ainsi que deux timbales. Puis il apporta son nécessaire de céleri, son éternel tas de harnais à réparer, et me tendit un licol auquel il manquait une sangle. Pour sa part, il entreprit de graver des ornements sur le petit quartier d'une selle. Il approcha son tabouret de la table et me regarda.
« Cette Molly, c'est donc elle que j'ai vue dans la cour des lavandières avec Brodette. Elle porte haut la tête. Il y a des reflets roux dans sa robe. »
« Dans ses cheveux ?»«
Oui, » fis-je à contre-cœur. « Elle a une belle croupe bien large. Elle mettra bas sans problème, » dit-il d'un ton approbateur.
Je le foudroyai de l'œil. « Merci, » répondis-je glacial. Son sourire me désarçonna.
« C'est ça. Mets-toi en colère. J'aime mieux ça que de te voir pleurnicher sur ton sort. Allons, raconte-moi tout. »
C'est ce que je fis. Je ne lui racontais pas tout, mais sans doute bien davantage que je n'eusse osé dans la salle de garde, car nous étions seuls. L'eau-de-vie me réchauffait agréablement, et j'étais entouré par les odeurs et les objets familiers de la chambre et du travail de Burick. Ici, comme nulle part ailleurs, j'avais toujours été en sécurité, et je ne voyais aucun risque à lui révéler ma peine. Il ne dit rien, ne m'interrompit pas, même après que j'eus fini. Il garda le silence et continua d'imprégner de teinture les incisions en forme de serre qu'il avait pratiquées dans le cuir.
« Alors, que dois-je faire ?»
m'entendis-je enfin demander. Il posa ses outils, termina son eau-de-vie et s'en resservit une timbale. Il parcourut sa chambre du regard.
« Tu t'adresses à moi, je suppose, parce que tu as remarqué le brillant succès que j'ai eu à me trouver une femme aimante et à lui faire de nombreux enfants. »
Je restai confondu de l'amertume qui perçait dans sa voix. Mais, avant que je puisse y répondre, il éclata d'un rire étranglé.
« N'y pense plus. À la fin des fins, c'est moi qui ai choisi ma vie, et j'ai pris ma décision il y a de longues années. À ton avis, Fitz-Chevalerie, que dois-tu faire ?»
Je le dévisageais d'un air morose, sans rien dire.
« Pourquoi est-ce que tout est allé de travers au fond ?»
reprit-il. Comme je restais muet, il me demanda.
« Ne viens-tu pas de me dire que tu l'as courtisée comme un gamin, alors qu'elle prenait tes avances pour celles d'un homme ?»« C'était un homme qu'elle désirait. Alors ne boude pas comme un gosse qui n'a pas ce qu'il veut. Comporte-toi en homme. »
Il but la moitié de son eau-de-vie, puis remplit nos deux timbales.
« Comment ? »
fis-je d'une voix tendue.
« De la même façon que tu l'as fait en d'autres occasions. Accepte la discipline. Conforme-toi à la tâche. Comme ça, tu ne la verras plus. Ce qui ne veut pas dire, si je connais un tant soit peu les femmes, qu'elle ne te verra pas. Ne l'oublie pas. Et regarde-toi. Tes cheveux, on dirait le poil d'hiver d'un poney. Quant à ta chemise, je parie que tu la portes depuis une semaine et tu es maigre comme un poulain de janvier. Ça m'étonnerait que tu regagnes son respect dans cet état-là. Nourris-toi, soigne ta mise chaque matin et au nom d'Eda, prends de l'exercice au lieu de traînailler dans la salle de garde. Fixe-toi des travaux à accomplir et métis. »
Sans mot dire, j'acquiesçais lentement. Il avait raison, bien sûr. Pourtant, je ne pus m'empêcher de protester. « Mais rien de tout ça ne me servira si Patience refuse toujours de me laisser voir Molly. »
« Au bout du compte, Patience n'a pas d'importance, crois-moi. Ça se passe entre Molly et toi. »
« Et le roi subtil ?» fis-je avec un sourire forcé. Il me regarda d'un air interrogateur. D'après Patience, un homme ne peut à la fois avoir juré allégeance à un roi et donner complètement son cœur à une femme. « On ne peut pas mettre deux selles sur un cheval, » m'a-t-elle dit. « Et Patience a épousé un roi servant. Et elle a su se satisfaire du peu de temps qu'il avait à lui consacrer. » Je tendis à Burick le licol réparé. Il ne le prit pas. Sa timbale d'eau-de-vie était à mi-chemin de ses lèvres, mais il la reposa si brutalement que l'alcool éclaboussa la table.
« Elle t'a dit ça ?»
me demanda-t-il d'une voix rauque. Son regard me transperçait. Je hochai la tête. « Il ne serait pas honorable, a-t-elle affirmé, d'obliger Molly à se contenter du rare temps libre que m'accorderait le roi ?» Burick se laissa aller en arrière. Ses traits reflétaient le conflit d'émotions qui faisait rage en lui. Il détourna les yeux vers la cheminée, puis les ramena sur moi. L'espace d'un instant, je crus qu'il allait me dire quelque chose. Mais il se redressa sur son siège, avala son eau-de-vie cul sec et se leva soudain.
« Il fait trop calme ici, si nous descendions à bord de Castelcerf. »
Le lendemain, je me levai, et sans prêter attention à la migraine qui me martelait le crâne, j'entrepris de cesser de me conduire comme un gamin transi d'amour. C'était mon insouciance et mon impétuosité puérile qui m'avaient fait perdre Molly. Je résolus donc d'avoir l'attitude retenue d'un adulte. Si je ne pouvais espérer la reconquérir qu'avec le temps, je suivrais le conseil de Burick et emploierais au mieux ce temps. Aussi, chaque matin, je me levais tôt, avant même les cuisinières. Dans le secret de ma chambre, je pratiquais des exercices d'assouplissement, puis de combat avec un bâton. Une fois trempé de sueur et au bord de l'étourdissement, je descendais au terme prendre un bain de vapeur. Et lentement, très lentement, la vigueur commença de me revenir. Je repris du poids, ma charpente s'étoffa peu à peu de muscles, et je me mis à mieux remplir les nouveaux habits que m'avait infligés maîtresse pressée. Je continuais à être parfois victime d'accès de tremblements, mais je faisais moins de crises, et je m'arrangeais toujours pour regagner ma chambre avant de m'humilier en m'effondrant devant tout le monde. Patience trouvait que je reprenais des couleurs, tandis que Brodette se faisait un plaisir de me gaver à la moindre occasion. Je commençais à me sentir à nouveau moi-même. Je mangeais chaque matin avec les gardes, pour qui la quantité consommée importait plus que les manières. Le petit déjeuner était suivi d'une virée aux écuries, pour emmener Sui faire un petit galop de santé dans la neige. Quand je rentrais avec elle, j'éprouvais un bonheur douillet à m'occuper personnellement de ma jument. Avant nos mésaventures au royaume des montagnes, Burick et moi étions en total désaccord sur mon emploi du vif, et j'étais pratiquement interdit de séjour aux écuries. Je ressentais donc aujourd'hui plus que de la satisfaction à étrier Sui et à m'occuper moi-même de lui donner son grain. Je retrouvais l'activité des écuries, les chaudes odeurs des animaux et les potins du château comme seuls les palefreniers savaient les raconter. Les jours où j'avais de la chance, Pogne et Burick prenaient le temps de s'arrêter pour bavarder avec moi. Les autres jours, ceux où le travail ne manquait pas, j'avais le plaisir doux amer de les voir se consulter à propos d'un étalon qui toussait ou soigner un sanglier souffrant qu'un fermier avait amené à la forteresse. En ces occasions, ils n'avaient guère la tête à s'amuser, et sans le vouloir, ils m'excluaient de leur intimité. C'était normal. Je m'étais engagé dans une nouvelle vie, et je ne pouvais espérer que la porte de l'ancienne me restât éternellement entr'ouverte. Cette pensée n'empêchait pas un sentiment de culpabilité quotidien au moment où je me rendais discrètement à la chaumière abandonnée, derrière les greniers. Je n'y allais qu'avec la plus grande prudence. La paix qui existait entre Burick et moi était trop récente pour que je la croie inébranlable, et je me rappelais trop bien la douleur que j'avais ressentie en perdant son amitié. Si Burick soupçonnait un jour que j'avais recommencé à pratiquer le vif, il me rejetterait aussi vite et aussi complètement que la première fois. Chaque jour, je me demandais ce qui me poussait exactement à jouer son affection et son respect pour un petit loup. Ma seule réponse, c'était que je n'avais pas le choix. Je n'aurais pas pu me détourner de Loupio davantage que d'un enfant mourant de faim dans une cage. Pour Burick, le vif qui me laissait parfois ouvert à l'esprit des animaux était une perversion, une faiblesse révoltante à laquelle un homme digne de ce nom ne se laissait pas aller. Il m'avait quasiment avoué en posséder le talent latent, mais en affirmant avec vigueur ne jamais s'en être servi. Et de fait, s'il l'avait employé, je ne l'y avais jamais surpris. La réciproque n'était pas vraie. Avec une perception extraordinaire, il savait toujours lorsqu'un animal m'attirait. Quand, enfant, je me permettais d'utiliser le vif avec une bête, j'avais généralement droit à un coup sur la tête ou à une gifle énergique pour me remettre au travail. À l'époque où je vivais avec lui dans les écuries, il faisait tout son possible pour m'empêcher de me lier à un animal. Il y avait toujours réussi, sauf en deux occasions. Et la peine intense que m'avait causée la perte de mes compagnons de vif m'avait convaincu de la justesse de ses vues. Seul un fou pouvait se prêter à un jeu qui menait inévitablement à tant de chagrin. J'étais donc un fou, et non un homme, de n'avoir pas su résister au prétexte d'un bébé loup battu et affamé. Je chapardais haut, restes de viande et croûtes de pain et faisais en sorte que nul, pas même Mijote ni le fou, ne soit au courant de mes activités. Je me donnais beaucoup de mal pour modifier chaque jour l'heure de ma visite et pour prendre un chemin différent afin d'éviter de tracer une piste jusqu'à la chaumière. Le plus difficile avait été de chiper de la paille fraîche et une vieille couverture de cheval dans les écuries. Mais j'y étais arrivé. Quelle que fût l'heure où je me présentais, Loupio m'attendait. Et ce n'était pas seulement la vigilance d'un animal qui espère avoir à manger. Il sentait quand j'entamais mon trajet quotidien vers la chaumière, et il guettait ma venue. Il savait aussi lorsque j'avais des gâteaux au gingembre dans la poche, et s'en prit rapidement d'un goût immodéré. Sa méfiance envers moi n'avait pourtant pas disparu. Je percevais sa circonspection, et je voyais comme il se reculait quand je m'approchais de lui. Mais chaque jour où je ne le battais pas, chaque miette de nourriture que je lui apportais était une pierre de plus dans le pont de confiance qui se bâtissait entre nous. Cependant, je ne voulais pas de ce lien, et je m'efforçais le plus possible de garder mes distances, de faire taire le vif entre nous. Je craignais qu'il perde la nature sauvage qui lui serait nécessaire pour survivre seul. Je lui serinais cet avertissement. « Tu dois rester caché. Les hommes sont un danger pour toi, et les chiens aussi. » Tu dois rester dans cette maison et ne faire aucun bruit si quelqu'un survient. » Au début, il n'eut pas de mal à s'y conformer. Tristement émacié, il se jetait sur la nourriture et la dévorait, puis s'endormait sur sa litière avant même que je m'en aille, ou bien me surveillait d'un œil jaloux, tout en rongeant un os. Mais peu à peu, bien nourri, avec de la place pour bouger et sans plus de crainte envers moi, il retrouva le caractère naturellement joueur d'un jeune animal. Il se mit à se jeter sur moi en feignant de m'attaquer dès que j'ouvrais la porte et à exprimer le bonheur que lui procuraient les gros os de bœuf en les maltraitant avec force grondement. Lorsque je lui reprochais le raffut qu'il faisait ou les traces qui trahissaient ses ébats nocturnes dans le champ de neige à l'arrière de la chaumière, il se tapissait dans un coin pour fuir mon mécontentement. Mais en ces occasions, j'observais aussi la férocité qui se dissimulait au fond de ses yeux. Il ne me reconnaissait aucune autorité, aucune domination sur lui. Seulement une sorte de rang plus élevé, comme au sein d'une meute. Il attendait l'heure où il prendrait ses propres décisions. Aussi pénible que ce fût parfois, c'était nécessaire. Je l'avais sorti de sa cage avec la ferme intention de le rendre à la liberté. D'ici un an, il ne serait plus qu'un loup parmi les autres qui hurlait dans le lointain, la nuit, et je le lui répétais sur tous les tons. Au début, il voulait savoir quand je le tirerais de la forteresse puante et des murailles qui l'enfermaient. Je lui promettais que ce serait bientôt, dès qu'il aurait repris des forces, dès que le plus noir de l'hiver serait passé et qu'il pourrait se défendre seul. Mais les semaines s'écoulaient. Les tempêtes lui rappelaient la chaleur douillette de sa litière et la bonne viande avec laquelle il s'étoffait les os. Et il m'interrogeait de moins en moins souvent. Moi-même, parfois, j'oubliais de lui rappeler ce qui l'attendait. La solitude me rongeait de l'intérieur et de l'extérieur. La nuit, je me demandais quelles seraient les conséquences si j'allais discrètement frapper à la porte de Molly. Et le jour, je me retenais de me laisser lier au petit loup qui dépendait entièrement de moi. À part moi, il n'y avait qu'une autre créature dans le château qui fût aussi seule que moi.
Vous devez avoir d'autres devoirs. Pourquoi venir chaque jour me tenir compagnie?
S'enquit Kétriken à la manière directe des montagnards. C'était le milieu de la matinée, au lendemain d'une nuit de tempête. Il tombait de gros flocons, et afin de les admirer, et malgré le froid, Kétriken avait fait ouvrir les volets. Sa chambre de couture donnait sur la mer, et il me semblait déceler chez la reine servante de la fascination pour ses os immenses et toujours en mouvement. Ses yeux avaient ce jour-là une couleur proche de celle de l'océan. J'espérais vous aider à passer le temps plus agréablement, ma reine servante.
Passer le temps? Elle soupira.
Elle mit son menton dans le creux de sa main et s'appuya sur le coude pour contempler d'un air pensif la neige qui tombait. La brise marine jouait dans ses cheveux blonds. « Votre langue est étrange. Vous parlez de passer le temps comme nous, dans les montagnes, parlons de passer le vent. Comme s'il fallait s'en débarrasser. » Sa petite servante, Romarin, assise à ses pieds, se mit à glousser dans ses mains. Derrière nous, ces deux dames de compagnie étouffèrent un petit rire, puis se remirent à leur ouvrage d'un air affairé. Kétriken elle-même avait sur les genoux un tambour à broder, sur lequel apparaissait l'esquisse d'un paysage de montagne agrémenté d'une cascade, mais son travail ne me semblait guère progresser. Ces autres dames de compagnie étaient absentes ce matin, mais avaient envoyé des pages les excuser, pour raison de migraine principalement. Elle ne paraissait pas se rendre compte de l'impolitesse dont elle était l'objet. J'ignorais comment le lui expliquer, et certains jours, je me demandais si c'était nécessaire. Et aujourd'hui, c'était justement l'un de ces jours. Je me tortillais sur mon siège, décroisais puis recroisais les jambes. Je voulais seulement dire qu'en hiver, Castelser peut être fort ennuyeux. Le mauvais temps nous empêche de sortir et il n'y a guère à faire d'intéressant. Ce n'est pas le cas dans les hangars des chantiers navals, répondit-elle. Ses yeux prirent une expression curieusement avide. Là-bas, on s'active. On écarrille les grands troncs et on courbe les planches jusqu'à la dernière lueur du jour. Même quand la lumière est faible ou que la tempête mugit, les charpentiers taillent, dressent et rabotent dans les abris. Aux forges, on fabrique des chaînes et des ancres. On tisse d'épaisses toiles pour les voiles. On les coupe et on les coud. Et Vérité déambule au milieu de tout cela, surveille les travaux, tandis que je reste ici à faire des ouvrages d'agrément, à me piquer les doigts et à muser les yeux pour broder des fleurs et des guirlandes, si bien que quand j'en ai achevé un, on peut le ranger avec une dizaine d'autres ouvrages du même style. « Oh non, madame, on ne le range pas !» fit impulsivement une des suivantes. « Vos travaux d'aiguille sont fort appréciés lorsque vous les donnez. À Orfon, l'un d'eux, encadré décore les appartements privés du seigneur Shemshai et le duc Kelvar de Ripon. » D'un soupir, Kétriken coupa court au compliment. Que ne puis-je œuvrer plutôt à une voile, avec une grande alaise de fer ou un épissoir en bois pour orner un des navires de mon époux? Voilà une tâche qui serait digne de mon temps et du respect de Vérité. Mais non, on me donne des jouets pour m'amuser, comme si j'étais une enfant gâtée et incapable de comprendre la valeur du temps bien employé. Elle se tourna vers sa fenêtre, et je remarquai alors que la fumée qui montait des chantiers navals était aussi visible que la mer elle-même. Peut-être m'étais-je trompé sur ce qu'elle regardait. « Dois-je faire monter du thé et des gâteaux, madame ?» demanda l'une des suivantes, pleine d'espoir. Toutes deux avaient remonté leur châle sur leurs épaules. Kétriken, elle, ne paraissait pas sentir le vent glacé qui soufflait par la fenêtre ouverte. Mais il ne devait pas être agréable, par ce froid, de jouer de l'aiguille sans bouger. « Si vous en avez envie, » répondit Kétriken d'un air absent. « Je n'ai ni faim ni soif. Je crains de m'empâter comme une oie enfermée à coudre toute la journée en m'empiffrant. Comme j'aimerais faire quelque chose d'intéressant. Dites-moi en toute sincérité, Fitz, si vous ne vous sentiez pas obligé de me tenir compagnie, resteriez-vous sans rien faire dans votre chambre, ou devant un métier à tisser à faire des ouvrages d'agrément ? Non, mais je ne suis pas reine servante. Servante ? Une servante qui ne sert à rien. Une amertume nouvelle perçait dans sa voix. Et reine ? Chez moi, vous le savez, on ne parle pas de reine. Si j'étais là-bas et que je gouverne à la place de mon père, je porterais le titre d'oblat. Mieux, je serais l'oblat incarné, prête à tous les sacrifices pour le bien de mon pays et de mon peuple. Si vous y étiez maintenant, au cœur de l'hiver, que feriez-vous ? Demandai-je dans l'espoir d'amener la conversation sur un terrain moins douloureux. Ce fut une erreur. Elle regarda un moment par la fenêtre, puis à mi-voix. Dans les montagnes, on n'avait jamais le temps de rester sans rien faire. J'étais la plus jeune, naturellement, et la plupart des devoirs d'oblat retombaient sur les épaules de mon père et de mon grand frère. Mais, comme dit Jonqui, il y a toujours de quoi s'occuper, et plus qu'il n'en faut. Ici, À Castelserre, tout est pris en charge par les serviteurs, loin des regards, et l'on ne voit que le résultat. La chambre rangée, le repas sur la table. C'est peut-être parce que tant de gens y habitent. Elle se tut un instant, et son regard se fit lointain. À Jaampe, en hiver, le silence s'installe sur le palais et la ville elle-même. La neige tombe en abondance, et un grand froid se referme sur le pays. Les pistes peu fréquentées disparaissent pour la saison. Les patins remplacent les roues. Ceux qui sont venus visiter la cité sont rentrés chez eux depuis longtemps. Au palais de Jaampe, il n'y a que les membres de ma famille et ceux qui ont choisi d'y résider pour les aider, pas pour les servir. Non, pas exactement. Vous avez été à Jaampe. Vous savez donc que nul là-bas, sauf la famille royale, n'a pour seul rôle de servir. Si j'étais à Jaampe, je me lèverais tôt. J'irai tirer de l'eau pour le gruau commun et je prendrai mon tour pour touiller dans la marmite. Kira, Sénic, Geoffron et moi animerions les cuisines de nos bavardages, entourés des enfants qui courraient partout comme des fous, iraient chercher du bois pour le feu et mettraient le couvert en jacassant de mille choses. Sa voix mourut et j'écoutais le silence de sa solitude. Elle finit par reprendre. S'il y avait un travail à exécuter, dur ou facile, nous nous y mettions tous. J'ai aidé à courber, puis à lier les branches pour fabriquer une grange. Au cœur même de l'hiver, j'ai participé au sauvetage d'une famille qu'un incendie avait ruinée, en déblayant la neige et en dressant de nouvelles arches faîtières pour sa maison. Croyez-vous qu'un oblat ne puisse traquer un vieil ours acariâtre qui tue les chèvres de nos bergers ? Ni aider à tirer sur une corde pour consolider un pont ébranlé par la crue. Le regard qu'elle m'adressa était empreint d'une souffrance sincère. Ici, à Castelserre, nous ne risquons pas la vie de nos reines, répondis-je simplement. D'autres bras peuvent tendre une corde, et nous avons des dizaines de chasseurs qui se battraient pour l'honneur d'abattre un décimeur de troupeau. Nous n'avons qu'une reine. Il y a des choses que seule une reine peut faire. Derrière nous, les dames de compagnie nous avaient pratiquement oubliés. L'une d'elles avait appelé un page, et il était revenu avec des gâteaux et du thé fumant dans une bouilloire. Elles bavardaient entre elles en se réchauffant les mains sur leurs tasses. Je les examinai brièvement pour me rappeler lesquelles des suivantes avaient choisi de s'occuper de leur reine. Je commençai à m'apercevoir que Kétriken n'était peut-être pas une reine des plus commodes à suivre. Sa petite servante, Romarin, était assise à même le sol, près de la table à thé. Les yeux dans le vague, un gâteau au creux des mains. Je regrettais soudain de n'avoir plus 8 ans et de ne pouvoir la rejoindre par terre. « Je sais à quoi vous faites allusion, » fit Kétriken d'un ton brusque. « Je suis ici pour donner un héritier à vérité. C'est un devoir auquel je ne cherche pas à me dérober, car je n'y vois pas un devoir, mais un plaisir. Je voudrais seulement être sûr que mon seigneur partage mes sentiments. Mais il est toujours au bourg. » Occupé à ses chantiers. Je sais où il est aujourd'hui, en bas, dans les hangars, à regarder ses navires se créer peu à peu à partir de planches et de troncs. Ne puis-je être à ses côtés sans pour autant courir de risques ? Voyons, si je suis la seule à pouvoir lui donner un héritier, lui seul peut l'engendrer. Dans ce cas, pourquoi dois-je rester confiné ici, tandis qu'il se jette à corps perdu dans la protection de notre peuple ? C'est là une mission que je devrais partager, en tant qu'oblat des Siduchés. Mon séjour au royaume des montagnes m'avait habitué à la franchise de ses habitants. Pourtant, je fus choqué par la brutalité des propos de la reine, et j'y réagis avec une audace excessive. Sans l'avoir prémédité, je tendis le bras sous son nez pour fermer les volets de la fenêtre par où soufflait un vent froid, et je profitai de cette proximité pour lui chuchoter d'une voix tendue. « Si vous croyez que c'est là l'unique responsabilité de nos reines, vous vous trompez lourdement, madame. » Pour parler avec la même franchise que vous, vous négligez vos devoirs envers vos suivantes, qui ne se trouvent dans cette pièce aujourd'hui que pour vous servir et causer avec vous. Réfléchissez, ne seraient-elles pas plus à l'aise dans leurs appartements pour faire les mêmes travaux d'aiguille ou en compagnie de maîtresses pressées ? Vous soupirez après ce que vous considérez comme un rôle plus important, mais vous en avez un à jouer, que le roi lui-même ne peut tenir, et c'est pour cela que vous êtes ici. ressusciter la cour de Castelcerf, en faire un parage avenant, séduisant, encourager les seigneurs et les dames à rivaliser pour attirer l'attention du roi servant, les inciter à le soutenir dans ses entreprises. Il y a longtemps que ce château n'a pas connu de reine accueillante. Au lieu de rester les yeux fixés sur des navires que d'autres mains sont plus capables que les vôtres de bâtir, acceptez la tâche qui vous est réservée et accomplissez-la. Je finis de tirer les rideaux qui cachaient les volets et contribuais à empêcher le froid des tempêtes d'entrer. Je repris alors ma place et croisai le regard de ma reine. À ma grande consternation, je la vis contrite comme une fille de laiterie. Des larmes perlaient à ses yeux clairs, et elle avait les joues aussi rouges que si je l'avais giflée. Je lançai un coup d'œil aux dames de compagnie toujours occupées à bavarder en prenant le thé. Profitant de ce que nul ne la regardait, Romarin enfonçait délicatement le doigt dans les tourtes pour voir ce qu'elle renfermait. Apparemment, personne n'avait rien remarqué. Mais je n'ignorais pas le talent des dames de la cour pour la dissimulation, et je craignais que les spéculations n'aillent bientôt bon train quant à ce que le bâtard avait pu dire à la reine servante pour la faire pleurer. Je maudis ma maladresse et tâchai de garder à l'esprit que, malgré sa stature, Ketriken n'était guère plus âgée que moi, et qu'elle se trouvait seule en terre étrangère. Au lieu de m'adresser à elle, j'aurais dû soumettre le problème à Imbre, qui aurait su discrètement inciter quelqu'un à lui fournir les explications nécessaires. Mais je compris au même instant qu'il avait déjà choisi quelqu'un pour ce rôle. Je croisai à nouveau les yeux de Ketriken et lui fit un sourire crispé. Elle suivit promptement mon regard posé sur ses suivantes et recomposa aussitôt son expression. Je ressentis une bouffée de fierté pour elle.
« Que me suggérez-vous ? »
demanda-t-elle à mi-voix. « Je vous prie de me pardonner, » fis-je avec humilité. « J'ai honte de l'audace avec laquelle j'ai parlé à ma reine, mais je suggère qu'elle honore ses deux suivantes fidèles, d'une marque particulière de faveur royale, pour les récompenser de leur loyauté. » Elle hocha la tête.
« Et quelle faveur ?»«
Une réunion intime dans les propres appartements de la reine, par exemple, pour assister au spectacle d'un ménestrel éminent ou d'un marionnettiste connu. Peu importe le divertissement. Ce qui compte, c'est qu'en soient exclues celles qui n'ont pas voulu vous servir aussi fidèlement que ces deux dames. » On dirait une manigance à la royale. En effet, il est très doué pour créer larbins et parasites, mais lui agirait par mépris, pour punir ceux qui n'auraient pas voulu le servir. Et moi ? Vous, ma reine servante, vous récompensez celles qui ont fait preuve de fidélité, sans volonté de sanctionner les autres, mais seulement de jouir de la compagnie de personnes qui vous rendent votre affection. Très bien. Et le ménestrel ? Je vous conseille velours. Quand il chante, on a l'impression qu'il susurre des galanteries à chaque dame présente. Voulez-vous voir s'il serait libre ce soir ?
Madame ?
Je ne pus m'empêcher de sourire. Vous êtes la reine servante. Vous l'honorez en requérant ses services. Il ne sera en aucun cas trop occupé pour vous obliger. » Ketriken soupira encore une fois, mais moins profondément. D'un hochement de tête, elle me congédia, puis s'approcha en souriant de ses dames de compagnie, pour s'excuser de son humeur distraite, puis leur demander si elle pourrait venir chez elle dans la soirée. Je les vis échanger des regards, puis sourire, et je sus que nous avions bien fait. Je pris mentalement note de leurs noms, Dame Espérance et Dame Pudeur. Je m'inclinai avant de sortir, mais mon départ passa pour ainsi dire inaperçu. C'est ainsi que je devins conseiller de Ketriken. Je n'appréciais guère ce rôle de compagnon, d'instructeur, de souffleur qui lui indiquait les pas de danse imposés par sa condition. En vérité, c'était une tâche déplaisante que la mienne. J'avais l'impression à la fois de la rabaisser par mes réprimandes et de la corrompre en lui enseignant à emprunter les voies tortueuses du pouvoir dans la toile d'araignée de la cour. Elle avait raison. C'était des procédés dignes de royal. Si elle les employait dans des buts plus nobles, et d'une manière moins violente que lui, mes intentions n'en restaient pas moins très égoïstes. Je voulais qu'elle accumule du pouvoir afin d'associer fermement, dans l'esprit de chacun, le trône à vérité. Tous les jours, en début de soirée, je devais me rendre chez Dame Patience. Elle et Brodette prenaient ses visites très au sérieux. Aux yeux de Patience, j'étais entièrement à sa disposition, comme si j'étais encore son page, et elle ne se gênait pas pour me demander de copier un antique manuscrit sur son précieux papier de roseau, ni pour exiger de constater mes progrès dans la pratique de la cornemuse de mer. Elle me reprochait toujours de ne pas faire suffisamment d'efforts dans ce domaine, et passait en général près d'une heure à m'embrouiller les idées en essayant de m'apprendre à jouer convenablement. Je me montrais aussi docile et poli que possible, mais je me sentais pris au piège de la conspiration des deux femmes destinée à m'empêcher de voir Molly. Je reconnaissais la sagesse de la ligne de conduite imposée par Patience, mais la raison n'apaise pas la solitude. Malgré leurs efforts pour me tenir loin de Molly, je la voyais partout. Oh, pas en personne, non, mais dans le parfum suave d'une grosse bougie à la baie de laurier, dans le manteau jeté sur un fauteuil, même le miel des gâteaux de miel avait le goût de Molly. Me prendra-t-on pour un sot si je dis que je m'installais tout près de la bougie pour respirer son parfum, ou que je m'asseyais dans le fauteuil afin de m'adosser à son manteau humide de neige? J'avais parfois le même sentiment que Ketriken, celui d'être submergé par mes devoirs et de ne plus rien avoir dans l'existence qui me fut personnelle. Chaque semaine, je faisais mon rapport à Umbre sur les progrès de la reine servante en matière d'intrigue de cour. Ce fut lui qui m'avertit que, tout soudain, les dames les plus éprises de Royal s'étaient mises à rechercher aussi les faveurs de Ketriken. Je dus donc la mettre en garde et lui indiquer qui traiter courtoisement, mais sans plus, et à qui faire sans réserve bon visage. Parfois je me disais que je devrais être en train de tuer au nom de mon roi plutôt que me laisser entraîner dans ses sournoiseries. Puis un jour, le roi subtil me fit convoquer. Le message me parvint un matin, très tôt, et je m'habillai en hâte pour me rendre auprès de mon roi. C'était la première fois qu'il m'appelait depuis mon retour à Castelserre. J'étais inquiet de son silence. Était-il mécontent de moi ou de ce qui s'était passé à Jaampe? Non, il me l'aurait dit en face. Néanmoins, l'incertitude me rongeait. J'essayais en même temps de faire vite, afin de me présenter le plus rapidement possible devant lui, et de soigner particulièrement ma tenue, et je ne réussis qu'à échouer dans l'un et dans l'autre. Mes cheveux, qu'on avait coupés à cause de la fièvre dans les montagnes, avaient repoussé aussi hirsutes et indisciplinés que ceux de vérité. Puis, ma barbe commençait à poindre, et par deux fois déjà, Burick m'avait mis en demeure de choisir entre la porter carrément ou me raser plus fréquemment. Comme elle poussait par plaques, à l'instar de la robe d'hiver d'un poney, je m'entaillais diligemment la figure à plusieurs reprises ce matin-là, avant de comprendre que quelques poils épars seraient moins visibles qu'une débauche de sang. Je me peignais les cheveux en arrière, en regrettant de ne pouvoir les natter en queue, comme les guerriers. Puis je fixais sur ma chemise l'épingle que Subtil m'avait remise il y avait tant d'années, pour signifier que je lui appartenais. Enfin, je me précipitais vers les appartements de mon roi. Alors que j'enfilais à grands pas le couloir qui conduisait à la porte du roi, Royal sortit brusquement de sa propre chambre. Je m'arrêtai pour éviter de le heurter, et le regardai avec la sensation d'être pétrifié. Je l'avais vu plusieurs fois depuis mon retour, mais toujours de loin, à l'autre bout d'une pièce, ou bien du coin de l'œil, alors que j'étais occupé par ailleurs. À présent, nous étions face à face, presque à nous toucher, et nous nous dévisagions mutuellement. Je me rendis compte avec un choc qu'on aurait presque pu nous prendre pour des frères. Il avait les cheveux plus bouclés que moi, les traits plus fins, le port plus aristocratique. Ses habits étaient des plumes de paon à côté de mes couleurs de jais, et il me manquait l'argent autour du cou et des poignets. Néanmoins, nous portions visiblement l'un comme l'autre la marque des loins voyants. Nous avions tous deux la mâchoire de Subtil, le pli de ses paupières, la courbe de sa lèvre inférieure. Ni le prince ni moi ne rivaliserions un jour avec la charpente massivement musclée de vérité, mais je m'en approcherais davantage que Royal. Nous avions moins de 10 ans d'écart, et seule sa peau me séparait de son sang. Je croisais son regard, et regrettais de ne pouvoir répandre ses entrailles sur le dallage. Il sourit, et ses dents blanches apparurent brièvement. « Le bâtard !» fit-il aimablement. Son sourire se durcit. Ou plutôt, Maître Fitz, un nom fort séant que tu t'es choisi là ? » Sa prononciation ne laissait aucun doute sur l'insulte. « Prince royal, » répondis-je, d'un ton aussi insultant que le sien. Je demeurais sans bouger devant lui, avec une patience que je ne me connaissais pas. C'est lui qui devait me frapper le premier. L'espace d'un instant, nous tîmes nos positions, les yeux dans les yeux. Puis il baissa le regard, pour se débarrasser d'une poussière imaginaire sur sa manche, et reprit son chemin. Je ne m'écartai pas, et il ne me bouscula pas, comme il l'eût fait autrefois. J'inspirai profondément, et me remis en route. Je ne connaissais pas le garde à la porte, mais il me fit signe d'entrer dans les appartements du roi. Avec un soupir, je m'imposai une nouvelle corvée, apprendre les noms et les visages du château. À présent que la cour grouillait de gens venus voir la nouvelle reine, je croisais sans cesse des individus qui me saluaient sans que je puisse mettre un nom sur eux. Quelques jours auparavant, j'avais entendu un marchand de charcuterie dire à son apprenti, près des cuisines, « Ce doit être le bâtard, d'après sa tête !» J'en avais eu un sentiment de vulnérabilité. Tout changeait trop vite pour moi. Je restais confondu en entrant chez le roi subtil. Je m'attendais à trouver les fenêtres entrouvertes pour laisser pénétrer l'air vivifiant de l'hiver. Subtil habillé, alerte, debout devant une table, prêt à l'action comme un capitaine auquel ses lieutenants présentent leur rapport. Il avait toujours été ainsi. Vieillard vif, strict avec lui-même, matinal, aussi matois que son nom le disait. Mais il n'était pas dans son salon. Je m'avançai jusqu'à l'entrée de sa chambre et jetai un coup d'œil par la porte ouverte. Elle était encore plongée dans une demi-pénombre. Un serviteur manipulait bruyamment des tasses et des assiettes sur une petite table placée près du grand lit à baldaquin. L'homme ne m'accorda qu'un bref coup d'œil. Il me prenait manifestement pour un domestique. L'air immobile sentait le renfermer, comme si la chambre n'avait plus servi ou était aérée depuis longtemps. J'attendis un moment que le serviteur annonce ma présence au roi, mais comme il n'en faisait rien, je m'approchai du lit d'un pas circonspect. Comme le roi ne disait rien, je pris mon courage à deux mains. « Mon roi, je suis venu, selon vos ordres. » Subtil était assis dans son lit, au milieu des ombres des rideaux, le dos abondamment soutenu par des coussins. Il ouvrit les yeux.
« Qui ? Ah, Fitz, assieds-toi. Murfès, apporte-lui un siège. Une coupe et une assiette aussi. »
Comme le serviteur s'éloignait, le roi me confia.
« Je regrette, Schaeffer. Je l'avais eu tant d'années que je n'avais plus besoin de lui expliquer ce que je voulais. »
« Je me souviens de lui, monseigneur. Où est-il, s'il n'est plus ici ?»
La toux l'a emporté. Il l'a attrapé à l'automne et il ne s'en est jamais débarrassé. Il s'est étiolé peu à peu, au point de ne plus pouvoir respirer sans siffler.
Je revoyais le serviteur en question. Il n'était plus tout jeune, mais pas très vieux non plus. Qu'il soit mort si tôt m'étonnait. Je restais debout sans mot dire en attendant que Murfès revienne avec un siège, une coupe et une assiette, puis je m'installais sous son regard désapprobateur, dont je n'avais cure. Il apprendrait bien vite que le roi subtil établissait lui-même ses propres règles de protocole. Et vous, mon roi, vous portez-vous bien ? Je ne me rappelle pas vous avoir jamais vu au lit dans la matinée.
Subtil émit un grognement d'impatience. C'est extrêmement agaçant. Ce n'est pas une vraie maladie, rien que des vertiges, la tête qui me tourne dès que je fais des mouvements trop brusques. Chaque matin, j'ai l'impression que c'est passé, mais quand j'essaye de me lever, les fondations de Castelserre se mettent à danser. Aussi, je reste au lit. Je mange, et je bois un peu. Puis je me lève prudemment. Vers midi, je suis de nouveau moi-même. À mon avis, c'est en relation avec le froid de l'hiver, mais le guérisseur prétend que cela provient peut-être d'un ancien coup d'épée que j'ai reçu quand j'avais à peu près ton âge. Regarde, On voit encore la cicatrice. Mais je croyais cette blessure guérie depuis longtemps. »
Le roi se pencha en avant en soulevant d'une main tremblante une mèche de cheveux grisonnant à la hauteur de sa tempe gauche. Je distinguais la fronce d'une vieille balafre et je hochai la tête.
« Mais assez de cela. Je ne t'ai pas appelé pour te consulter à propos de ma santé. J'imagine que tu connais le motif de ta présence ici. »
« Vous désirez un rapport complet sur les événements de Jahamp ?» Je jetai un coup d'œil alentour et repérai Murfest non loin de nous. Schaeffer, lui, aurait quitté la pièce pour nous permettre de discuter librement. Jusqu'à quel point pouvais-je parler franchement en présence de ce nouveau domestique? Mais Subtil écarta le sujet d'un geste désinvolte.
« C'est déjà fait, mon garçon, »
dit-il en articulant péniblement.
« Vérité, moi, nous en sommes entretenus. La page est tournée. Je ne pense pas que tu puisses m'apprendre grand-chose que je ne sache déjà ou que je n'ai deviné. Vérité et moi avons longuement débattu. Je regrette certains incidents, mais c'est le passé. Et c'est du présent qu'il nous faut nous occuper, n'est-ce pas ?
Les mots se pressaient dans ma gorge, presque à m'étouffer. Royal, avais-je envie de lui dire « Votre fils a tenté de me tuer, moi, votre petit-fils le bâtard. Vous êtes-vous longuement entretenu avec lui aussi ? Et était-ce avant de m'avoir jeté entre ses griffes ou après ?» Mais avec autant de netteté que si Ambre ou Vérité me l'avait soufflé à l'oreille, je sus soudain que je n'avais nul droit à douter de mon roi, ni même à lui demander s'il m'avait donné en sacrifice à son dernier fils. Je serrai les dents et ravalai mes questions. Subtil croisa mon regard, puis ses yeux se détournèrent brièvement vers le serviteur.
« Murfès, va aux cuisines un moment, ou là où tu voudras qu'il ne soit pas ici. »
L'homme eut l'air mécontent, mais sortit avec un grognement, en laissant la porte entrebâillée. Sur un signe de Subtil, je me levai et allai la fermer. Puis je repris place sur le siège.
« Fils chevalerie, » dit le roi, « cela ne doit pas continuer. »
« Monseigneur, » je soutins son regard un instant, puis baissai les yeux. Il parlait péniblement.
« Parfois, les jeunes gens ambitieux font des bêtises. Quand on leur démontre leur erreur, il s'excuse. »
Je relevai brusquement les yeux en me demandant s'il attendait que je fasse amende honorable, mais il poursuivit.
« Ces excuses, on me les a présentées et je les ai acceptées. La vie continue son cours normal. Fais-moi confiance, »
dit-il, et ce n'était pas une prière.
« Moins on en dit, plus rapide est la guérison. »
Je m'adossai dans ma chaise. J'inspirai, puis relâchai lentement mon souffle. Quelques instants plus tard, j'avais repris mon sang-froid. Je regardais Subtil, le visage ouvert. « Puis-je vous demander pourquoi vous m'avez convoqué, mon roi ?»«
Pour une méchante affaire, »
dit-il avec dégoût.
« Le duc Brondy de Béarn pense que c'est à moi de la régler, et il craint ce qui risque de s'en suivre si je ne fais rien. » Il ne considère pas comme de bonne politique d'agir lui-même. J'ai donc accepté sa requête, mais à contre-cœur. N'avons-nous pas assez des pirates à notre porte sans lutte intestine? Enfin, on a le droit de me demander d'intervenir et j'ai le devoir d'obliger le demandeur. Une fois encore, tu vas être l'instrument de la justice du roi, Fitz. »
Il me fit un exposé concis de la situation en Béarn. Une jeune femme de la baie aux phoques s'était présentée à Castellonde pour proposer ses services de guerrière à Brondy. Il les avait acceptés de grand cœur, car elle était à la fois bien musclée et experte au maniement du bâton, de l'arc et de l'épée. Belle autant que forte, petite, brune et souple comme une loutre de mer, elle constituait une recrue bienvenue dans la garde et devint bientôt, de surcroît, la coqueluche de la cour. Elle possédait non du charme, mais un courage et une force de caractère qui incitaient à la suivre. Brondy lui-même s'était pris d'affection pour elle. Elle mettait de la vie à sa cour et inspirait un entrain nouveau à sa garde. Mais récemment, elle avait commencé à se croire des dons de prophétie et de divination. Elle prétendait qu'elle, le dieu de la mer, l'avait choisie pour une glorieuse destinée. De son vrai nom, Madja, et d'une ascendance tout à fait commune, elle s'était rebaptisée au cours d'une cérémonie qui mêlait le feu, le vent et l'eau, et se faisait désormais appeler Virilia. Elle ne se nourrissait que de gibier qu'elle avait elle-même tué, et ne gardait dans sa chambre que des objets qu'elle avait faits de ses propres mains, ou gagnait l'arme au poing. Le nombre de ses disciples ne cessait de croître, et on y trouvait aussi bien de jeunes nobles que quantité des soldats qu'elle commandait. À tous, elle prêchait la nécessité de revenir au culte et à l'adoration d'elle. Elle se faisait l'apôtre des anciennes traditions, d'un mode de vie rigoureux et simple qui glorifiait le mérite personnel. Elle considérait les pirates et les forgisations comme des sanctions envoyées par elle pour nous punir de nos mœurs relâchées et accuser la lignée des loin-voyants d'encourager ce laxisme. Tout d'abord, elle n'avait fait ce genre de déclaration qu'avec circonspection, et si, dernièrement, elle se montrait plus franche, elle ne poussait jamais l'audace jusqu'à tenir des propos ouvertement séditieux. Néanmoins, des taurillons avaient été sacrifiés sur les falaises, et elle avait oint de leur sang nombre de jeunes gens avant de les envoyer en quête spirituelle, comme cela se faisait en des époques très archaïques. Des rumeurs étaient parvenues jusqu'à Brondy, selon lesquelles elle cherchait un homme digne d'elle, prêt à une alliance pour renverser le trône des loin-voyants. Ils prendraient ensemble le pouvoir pour inaugurer l'ère du guerrier et mettre un terme à celle du fermier. D'après Béarn, un nombre considérable de jeunes gens étaient prêts à se disputer cet honneur. Brondy souhaitait qu'on interrompe les activités de cette femme avant d'être obligé de l'accuser de trahison et de devoir forcer ses hommes à choisir entre Virilia et lui-même. Subtil était d'avis que sa popularité chuterait sans doute brutalement si elle trouvait son maître au maniement des armes, ou bien si elle était victime d'un grave accident, ou encore si elle perdait sa force et sa beauté à la suite d'une maladie imminente. Je ne puis qu'en convenir, non sans observer que, dans bien des cas, des individus avaient été déifiés après leur mort, à quoi Subtil répondit que c'était exact, à condition qu'ils aient péri honorablement. Là-dessus, il changea complètement de sujet. À Castelonde, dans la baie aux Phoques, se trouvait un vieux manuscrit dont Vérité désirait une copie et qui dressait la liste de tous les ressortissants de Béarn qui avaient suivi le roi par l'art, en tant que membre d'un clan. On disait aussi que Castelonde abritait une relique du temps où les anciens avaient défendu la cité. Subtil voulait me voir partir le lendemain matin pour la baie aux Phoques, où je devais copier le manuscrit, examiner la relique, après quoi je reviendrai lui faire mon rapport. Je devais également transmettre à Brondy les meilleurs vœux du roi et son assurance qu'il serait bientôt mis un terme à ses désagréments. J'avais compris. Alors que je m'apprêtais à sortir, Subtil leva la main. J'attendis qu'il parle.
« As-tu le sentiment que je tiens la part de mon marché avec toi ?»
demanda-t-il. C'était la vieille question, celle qu'il me posait toujours à la fin de nos rencontres, lorsque j'étais enfant. Cela me fit sourire.
« Oui, sire, » répondis-je comme d'habitude. « Alors, veille à tenir la tienne aussi. »
Il se tut. Puis, ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là, il reprit.
« N'oublie pas, fit ce chevalerie, le mal que l'on fait à l'un des miens, c'est à moi qu'on l'inflige.
Sire, tu ne ferais pas de mal à l'un des miens, n'est-ce pas ?»
Je me roidis. Je savais ce qu'il me demandait, et je l'acceptais.
« Sire, je ne ferai de mal à aucun des vôtres. J'ai prêté allégeance à la maison des loin-voyants. »
Il hocha lentement la tête. Il avait arraché des excuses à Royal, et à moi la promesse que je ne tuerais pas son fils. Il croyait sans doute avoir rétabli la paix entre nous. Dans le couloir, je repoussai mes cheveux en arrière. Je venais de donner ma parole. Je réfléchis soigneusement et m'astreignis à envisager ce qu'il allait m'en coûter de la tenir. Aussitôt, la rancœur m'envahit jusqu'à ce que j'imagine ce qu'il m'en coûterait d'enfreindre ma promesse. Alors j'allais chercher au fond de moi les restrictions que j'avais pu formuler et les extirpais sans pitié. Enfin, je pris la résolution de respecter mon engagement sans faillir. La paix ne régnait assurément pas entre Royal et moi, mais je pouvais au moins faire la paix avec moi-même. Ragaillardi par ma décision, j'enfilai le couloir à grands pas. Je n'avais pas refait mes réserves de poison depuis mon retour des montagnes, et au dehors, les plantes hibernaient encore. Il me faudrait donc dérober ce dont j'avais besoin. Je trouverais certains produits chez les teinturiers, et le magasin du guérisseur m'en fournirait d'autres. C'est l'esprit plein de ses préoccupations que je m'engageais dans l'escalier. Sereine le gravissait dans l'autre sens. Quand je la vis, je me figeais, le cœur défaillant, davantage même qu'en présence de Galen. C'était un vieux réflexe. De tous les membres du clan du maître d'art, elle était désormais le plus puissant. Auguste avait quitté la scène pour se retirer loin dans l'intérieur et jouer les gentilshommes dans une région à verger. Son art avait été totalement annihilé lors de la confrontation qui avait vu la mort de Galen. Sereine était maintenant la clé de voûte du clan. En été, elle demeurait à Castelserre, et les autres membres du clan, répartis dans des tours et des forteresses tout le long de notre côte, envoyaient par son canal leur rapport au roi. Pendant l'hiver, le clan se réunissait à Castelserre pour renouer les liens et consolider l'esprit de groupe. En l'absence d'un maître d'art, Sereine avait hérité d'une bonne part de la position de Galen au château. Elle avait également repris à son compte, et avec enthousiasme, la haine que me vouait Galen. En sa présence, je ne me rappelais qu'avec trop d'honnêteté les violences passées, et je ressentais une angoisse inaccessible à la logique. Je l'évitais depuis mon retour, mais à présent j'étais cloué sous son regard. La largeur de l'escalier était plus que suffisante pour permettre à deux personnes de s'y croiser, sauf si l'une d'elles se plantait délibérément au milieu d'une marche. Bien que je fusse au-dessus d'elle, je sentis qu'elle avait l'avantage. Elle avait changé depuis l'époque où nous étions les élèves de Galen. Son apparence physique tout entière reflétait sa nouvelle position. Elle portait une robe bleue nuit somptueusement brodée. Une tresse emmêlée de fils brillants et d'ornements en ivoire tirait sa chevelure noire en arrière. Des bijoux d'argent paraient sa gorge et ses mains. Mais elle avait perdu toute féminité. Elle avait dû adopter les valeurs ascétiques de Galen, car son visage n'était plus qu'un masque d'os, ses mains des griffes décharnées. Comme notre ancien maître, elle se consumait au feu de sa propre vertu. C'était la première fois qu'elle m'abordait de front depuis la mort de Galen, et je m'arrêtais au-dessus d'elle sans avoir la moindre idée de ce qu'elle me voulait. « Bâtard !» dit-elle d'une voix monocorde. C'était une description, pas un salut. Je me demandais si ce qualificatif perdrait un jour son cinglant à mon oreille. « Sereine, » répondis-je d'un ton aussi plat que possible. « Tu n'es pas mort dans les montagnes ?»« Non, en effet. » Elle me barrait toujours le passage. Très bas, elle dit. « Je sais ce que tu as fait. Je sais ce que tu es. » Mes tréfonds tremblaient comme ceux d'un lapin. J'essayais de me convaincre qu'il devait lui falloir jusqu'à la moindre parcelle de son art pour m'imposer cette angoisse, que cette émotion ne m'appartenait pas, que c'était seulement son art qui me l'instillait. Je me forçais à parler. Moi aussi, je sais ce que je suis. L'homme lige du roi. Tu n'es pas un homme, déclara-t-elle avec une calme assurance. Elle me sourit. Un jour, tout le monde le saura. La peur ressemble étonnamment à la peur, quelle qu'en soit la source. Je ne répondis pas et demeurai immobile. Enfin, elle s'écarta pour me laisser passer. J'y vis une petite victoire, bien qu'en y réfléchissant, elle n'avait guère d'autres possibilités. J'allais préparer mes affaires pour mon voyage en Béarn, brusquement soulagé de quitter la forteresse l'espace de quelques jours. je ne conserve pas bon souvenir de cette mission. Je fis la connaissance de Virilia, invitée à Castellonde alors que j'y effectuais mes travaux de scribe. Elle était telle que l'avait décrite subtile, belle et solidement bâtie, avec des mouvements souples de félin en chasse. Sa vitalité, sa superbe santé lui donnaient un éclat incomparable, et elle attirait tous les regards à son entrée dans une pièce. Elle jetait sa chasteté comme un défi à tous les hommes qui l'entouraient. Moi-même, je me sentis tomber sous le charme, et ma mission ne m'en parut que plus cruelle. Le premier soir à table, elle était installée en face de moi. Le duc Brondy m'avait fait excellent accueil, au point de faire préparer par son cuisinier certains plats de viande épicée dont j'étais friand. Ses bibliothèques étaient à ma disposition, ainsi que les services de son scribe subalterne. Sa dernière fille, Célérité, partageait même sa timide société avec moi, et je l'entretenais du manuscrit qui m'amenait chez son père, agréablement étonné de l'intelligence dont elle faisait preuve et de la discrétion avec laquelle elle la manifestait. À mi-repas, Virilia dit d'une voix claire à son voisin de table qu'autrefois on noyait les bâtards à la naissance. Les anciennes coutumes d'elle l'exigeaient, ajoutait-elle. J'aurais pu faire semblant de n'avoir rien entendu, mais elle se pencha vers moi pour me demander en souriant. « Vous ne connaissiez pas cette tradition, bâtard ?» Je me tournai vers le duc Brondy qui présidait la table, mais il était plongé dans une discussion animée avec sa fille aînée et ne m'accorda pas le moindre regard. Elle est aussi ancienne, je pense, que celle qui imposa à un invité de se montrer courtois envers un autre à la table de leur hôte, répondis-je en m'efforçant de garder une voix ferme et de ne pas scier. Un appât, voilà ce que j'étais. Brondy m'avait installé en face d'elle pour l'appâter. Jamais encore on ne s'était servi de moi de façon aussi criante. J'essayais de me cuirasser contre cette idée, de faire table rase de mes sentiments personnels. Au moins, j'étais préparé. Certains verraient un signe de la dégénérescence de la lignée des loin-voyants dans le fait que votre père s'est glissé impur dans le lit nuptial. Naturellement, je ne suis pas de celles qui dénigrent la famille de mon roi, mais dites-moi, comment celle de votre mère a-t-elle réagi à son état de putain ? Je lui fis un sourire affable. Je me sentais soudain moins de scrupules quant à ma mission. « Je n'ai guère de souvenirs de la famille de ma mère, » répondis-je sur le ton de la conversation, « mais j'imagine qu'elle partageait mon avis. Mieux vaut être putain ou fils de putain que traître à son roi. » Je pris mon verre de vin et me tournai vers Célérité. Ses yeux bleus sombres s'agrandirent, et un hoquet de frayeur lui échappa lorsque le poignard de Virilia s'enfonça dans la table à quelques pouces de mon coude. Je m'y étais attendu, et tranquillement, je croisais son regard. Virilia s'était dressée, les yeux flamboyants, les narines palpitantes. Le rouge qui lui teintait les joues enflammait sa beauté. « Dites-moi, » fis-je d'un ton posé, « vous professez l'observance des coutumes d'autrefois, n'est-ce pas ? Ne vous conformez-vous donc pas à celle qui interdit de verser le sang dans une maison dont vous êtes l'invité ? N'êtes-vous pas indemne ? » demanda-t-elle en guise de réponse. « Autant que vous. Je ne veux pas jeter la honte sur la table de mon duc en prétendant à dire qu'il a laissé des invités s'entretuer au-dessus de son pain. Mais peut-être votre loyauté envers votre duc vous est-elle aussi indifférente que celle envers votre roi ? Je n'ai pas prêté serment de fidélité à votre chiffre de roi loin-voyant, répondit-elle d'une voix sifflante. Les convives s'agitèrent, certains par embarras, d'autres pour mieux y voir. Ainsi, d'aucuns étaient venus assister à ma mise au défi à la table de Brondy. Toute la scène avait été aussi soigneusement planifiée qu'une campagne militaire. Mais Virilia se doutait-elle de l'attention que j'y avais apportée, moi aussi? Avait-elle idée du petit paquet que je portais dans ma manche? J'élevai la voix pour bien me faire entendre, et hardiment, « J'ai oui parlé de vous. Ceux que vous cherchez à vous rallier seraient plus avisés de se rendre à Castelserre. Le roi servant vérité appelle tous ceux qui savent se servir d'une arme à venir garnir ces nouveaux bateaux de guerre et à lever cette arme contre les Outriliens, nos ennemis à tous. Voilà, selon moi, qui serait une meilleure mesure du talent d'un guerrier. » N'est-ce pas là un but plus honorable que de se tourner contre les chefs à qui l'on a juré fidélité ou que de répandre le sang d'un taureau à la pleine lune, au sommet d'une falaise, alors que cette viande pourrait nourrir ceux des nôtres que les pirates rouges ont dépouillés ? Je parlais avec passion, d'une voix de plus en plus forte, cependant que Virilia me dévisageait, effaré de tout ce que je savais, transporté par ma propre harangue, car j'y croyais, je me penchais au-dessus de la table, et nez à nez avec Virilia, je lui demandais. « Dites-moi, vaillante que vous êtes, avez-vous jamais levé les armes contre quelqu'un qui n'était pas votre compatriote? Contre l'équipage d'un pirate rouge? Non. Je le pensais bien. Il est tellement plus facile d'insulter l'hospitalité d'un hôte ou de blesser le fils d'un voisin que de tuer celui qui vient assassiner vos frères. » Les mots n'étaient pas le fort de Virilia. Folle de rage, elle me cracha au visage. Je me redressai calmement et m'essuyai. « Peut-être voulez-vous me provoquer en combat, en un lieu et en un temps plus approprié? Pourquoi pas dans une semaine, sur les falaises, où vous avez si courageusement tué l'époux de la vache? Peut-être, en tant que scribe, ferai-je un adversaire plus valeureux que votre guerrier bovin ?» Le duc Brondi daigna soudain remarquer l'agitation de sa table.
« Fitz Chevalerie, Virilia !»
nous lança-t-il du ton de la réprimande. Mais la femme et moi ne nous quittâmes pas des yeux, et mes poings restèrent plantés de part et d'autre de son assiette, tandis que je l'affrontais, penché au-dessus de la table. Son voisin m'eût volontiers défié à son tour, je crois, si le duc Brondi n'avait pas asséné sur la table un coup violent d'un bol de sel, au risque de fracasser l'objet, avant de nous rappeler avec vigueur que nous étions à sa table, dans son château, et qu'il n'y voulait pas d'effusion de sang. Lui, au moins, était capable d'honorer à la fois le roi subtil et les coutumes d'autrefois, et il nous engagea à l'imiter. Je lui présentai d'humbles et éloquentes excuses, et Virilia marmonna un vague pardon. Le repas se poursuivit sans incident, les ménestrels chantèrent, et je passai les jours suivants à recopier le manuscrit destiné à Vérité. Je vis également la relique des anciens, qui ne m'évoqua rien tant qu'une fiole de verre constituée de très fines écailles de poisson. Je paraissais faire à Célérité plus d'impression qu'il n'était à mon goût, et d'un autre côté, je devais affronter l'animosité glacée des partisans de Virilia. La semaine fut longue. Le duel n'eut jamais lieu, car, avant la fin de la semaine, Virilia fut victime d'une éruption de furoncles et d'aphtes sur la langue et dans la bouche. Punition traditionnelle, selon la légende, de qui ment à ses compagnons d'armes et trahit ses serments. Elle pouvait à peine boire, encore moins se nourrir, et sa maladie la défigurait tant que tous ses proches finirent par fuir sa compagnie, crainte de la contagion. Sa douleur était telle qu'elle ne put affronter le froid pour aller se battre, et nul ne se proposa pour la remplacer. J'attendis donc au sommet des falaises un adversaire qui ne se présenta jamais. Célérité patienta auprès de moi, ainsi qu'une vingtaine de nobliaux envoyés par le duc Brondi pour me servir de témoin. Nous bavardâmes tranquillement entre nous tout en buvant de l'eau-de-vie à l'excès pour nous tenir chaud. À la tombée du soir, un messager vint du château nous annoncer que Virilia avait quitté Castelonde, mais pas dans le but de m'affronter. Elle était partie à cheval en direction de l'intérieur, seule. Célérité joignit les mains dans un geste de bonheur, puis, à ma grande surprise, se jeta dans mes bras. Nous rentrâmes à Castelonde, frigorifiés mais joyeux, prendre un dernier repas avant mon départ pour Castelserre. Brondi me fit asseoir à sa gauche, et Célérité à côté de moi. « Vous savez, remarqua-t-il à mon intention vers la fin du repas, chaque année vous ressemblez de façon plus frappante à votre père. » Toute l'eau-de-vie de Béarn n'aurait pu vaincre le frisson glacé qui me parcourut à ces mots.